Repartir avec cette entrevue très importante, en fait, nous l'apercevons comme déterminée, mesurée dans ses recommandations. Je parle bien sûr de la protectrice du citoyen, Mme Raymonde Saint-Germain, qui a marqué sa fonction et qui termine sa dernière année de mandat. Alors, bonjour, Mme Saint-Germain.
Bonjour, M. Rassette.
Merci de nous faire l'honneur de votre passage au Canal M.
Ça me fait plaisir.
Revenons d'abord dans le champ de l'actualité, parce que beaucoup de groupes vous ont paraphrasé après le dépôt de votre rapport le 29 septembre dernier. Rappelez-nous votre recommandation centrale face aux mesures d'austérité en santé et services sociaux.
En fait, j'ai deux recommandations centrales. La première, c'est de dire, le mot austérité, je ne l'utilise pas vraiment, mais je dis... Dans un contexte où il y a des restrictions budgétaires importantes qui sont cumulées d'une année à l'autre depuis au moins 10 ans, il est important de mesurer l'impact des compressions que l'on fait sur le service aux citoyens parce que nous avons constaté des décisions qui ont été préjudiciables au bien-être de certains citoyens. La deuxième recommandation, c'est il faut s'assurer que la bureaucratie, par bureaucratie, j'entends des procédures excessives, du travail en vase clos, un peu trop de, passez-moi l'anglicisme, de corporatisme, que la bureaucratie est davantage allégée avant de réduire le service direct à la population.
Et ça vaudrait peut-être la peine même d'insister quand vous parlez de bureaucratie et de procédures, c'est qu'il y a eu un grand travail dans les deux dernières années, j'oserais dire, et même avant, de normage, c'est un néologisme étrange, mais on a tenté de normer les différents actes, notamment médicaux, et vous trouvez que ça dessert la population au final?
Bien, ce qui effectivement dessert la population, c'est que on établit des critères en fonction d'une disponibilité budgétaire, mais sans tenir compte du critère ou du diagnostic professionnel qui fait en sorte, par exemple, si on prend le soutien à domicile, en raison de critères administratifs qui ont eu préséance sur les critères médicaux ou les critères psychosociaux, des gens qui avaient 33 heures de besoin bien évalués ont eu 12 heures de service. Et ça a compromis leur maintien à domicile avec toutes les conséquences que ça peut vouloir dire. Des gens qui s'en vont à ce moment-là en CHSLD, ce qui coûte plus cher à l'État. Des gens qui sont en situation de souffrance, qui vont se priver de services, mais au détriment de leur bien-être. Alors, il faut qu'on ramène l'évaluation des besoins et les critères professionnels comme étant le premier déterminant et qu'on fasse tous les efforts pour couper ailleurs que dans les services.
Et donc, vous faites la démonstration, au fond, même que des choix qui ont été faits. Vous parlez, entre autres, de compromettre le soutien à domicile de quelqu'un et donc de le placer en CHSLD. En fait, on n'a pas pensé que ça coûte 80 000 $ puis vous rappelez dans votre rapport que pour 80 000 $ on pourra avoir 96 heures par semaine de soutien à domicile.
C'est ça, les décisions sont souvent prises en silo et effectivement, et non seulement on aurait toutes ces heures-là, mais en plus, ça répond, ça respecte le choix des citoyens qui, dans la mesure où ils le peuvent et avec le support nécessaire, préfèrent demeurer chez eux. Le domaine, je parlais des services sociaux, il y a des situations aussi où je pense aux jeunes enfants autistes, ou en déficience intellectuelle, certains qui ont des besoins d'accompagnement, que ce soit des psychothérapies, des services d'orthophonie, de réadaptation au sens large. Les listes d'attente sont très longues. Les besoins identifiés, on n'est pas en mesure de les satisfaire en temps opportun, si bien que des enfants, on a parlé précisément d'un dossier qui, moi, me touche beaucoup. C'est un jeune enfant de 3 ans. Sa mère l'inscrit tout de suite pour l'orthophonie avant l'entrée à l'école dans 2 ans.
Oui, dans une optique de prévention.
Prévention, lui donner le plus de chances possible. Un an plus tard, on lui dit, ben, ça va prendre encore 2 ans, et le jeune enfant, donc, entre à l'école sans avoir eu de service en orthophonie. Et déjà, il y a moins de chances que d'autres en partant. Alors, je pense qu'il faut revoir cette approche, justement, trop administrative, trop bureaucratique, faire les bonnes compressions au bon endroit et mesurer davantage les impacts et prioriser les clientèles vulnérables. Ce que je dis, au fond, c'est que l'administration en a moins souffert de ces compressions cumulées que les personnes vulnérables qui sont très dépendantes et beaucoup plus que d'autres de ces services publics-là.
Mais donc, vous-même, vous le dites, ce sont ces personnes vulnérables qui ont le plus souffert des coupes et des réorganisations en santé.
Oui,
c'est précisément eux. On parle des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap, bien sûr, mais vous parlez aussi de la population carcérale, parce que c'est dans votre mandat aussi.
Oui.
D'autres groupes aussi, les personnes âgées auraient eu de la difficulté aussi.
Les personnes âgées, c'est souvent justement au niveau des services d'hébergement. Évidemment, je fais toujours attention de ne pas infantiliser toutes les personnes âgées et même aucune. Certaines ont des besoins, d'autres sont en pleine forme, mais celles qui ont des besoins, effectivement, les délais sont longs. On retrouve en ressources intermédiaires des personnes qui ont besoin de services plus important, plus spécialisé que ce que peuvent offrir les ressources intermédiaires, mais il n'y a pas de place pour elles en CHSLD. Alors, il y a de toutes sortes d'effets dominos qui sont quand même très importants. Vous parliez tout à l'heure du secteur carcéral.
Oui.
Effectivement, puis c'est toujours un sujet que je tiens toujours à dire. C'est important de ne pas négliger la bonne prise en charge des besoins des personnes qui sont détenues. Certaines ont des besoins d'accompagnement en santé mentale, d'accompagnement psychologique. Et il y a là des enjeux autant de sécurité pour elles-mêmes et pour la société.
Pour le public aussi.
C'est ça, et de bien-être. Et c'est le moment où elles sont en détention, justement, de faire les plans d'intervention, de commencer les enjeux en toxicomanie notamment. Et malheureusement, on voit que les services de santé en milieu carcéral, c'est vraiment insuffisant, particulièrement en santé mentale. Il y a aussi des bonnes nouvelles dans mon rapport. Il reste qu'il y a maintenant 9 centres de détention du Québec sur 20 qui commencent à avoir une couverture plus adaptée des services de santé requis au moment opportun. C'est un début. Je veux aussi reconnaître, et je le fais dans le rapport, vous parliez tout à l'heure de l'importance de la nuance et de la mesure, qu'il y a eu quand même des avancées. On parlait de personnes vulnérables, ça peut être aussi un entrepreneur, on n'est plus du tout en santé, pour lequel Revenu Québec peut soupçonner qu'il fraude l'impôt. C'est
oui.
important, hein, de la lutte à l'évasion fiscale. C'est comme ça qu'on finance avec les impôts nos services publics. Mais dans certaines situations, il y a eu des abus de la part de Revenu Québec qui envoyaient des avis de cotisation qui sont à payer maintenant sur la base de présomptions qui n'étaient pas suffisamment prouvées et dans certains cas qui n'étaient pas exactes. Et dans les bonnes nouvelles, c'est que mon rapport de l'an dernier avait vraiment interpellé le ministre des Finances qui a demandé à Revenu Québec un plan d'action, un changement de culture, et on voit que ça, sur le terrain, ça se réalise. Alors, il y a quand même des avancées, mais une personne vulnérable, ça peut être aussi une entreprise pour laquelle on va la traiter d'une manière à peut-être mettre en péril sa capacité de demeurer en affaires. C'est aussi ça. Hein.
Donc, vous parlez des petites entreprises, entre autres.
Oui, petites et même des moyennes entreprises. Alors, la justice administrative, c'est important qu'elle soit présente partout dans tous les services publics.
Bien, j'apprécie votre panorama. Si vous me permettez, je vais revenir au soutien à domicile.
Oui.
Vous savez que c'est déterminant pour les gens qui nous écoutent et il faut quand même constater que ça fait 2 rapports que vous insistez particulièrement sur cette question-là. Il y a même un cas spécifique que j'aimerais vous rappeler, M. Michel G. Pigeon, à qui on a coupé
oui.
11h45 par semaine en début d'année. Et rappelons que M. Pigeon a une déficience physique sévère, travaille tous les jours. Votre service a transmis le 19 août dernier à l'établissement concerné aux citoyens la recommandation qui disait la chose suivante, « Réallouer immédiatement à l'usager toutes les heures de soutien à domicile. » Et le gouvernement n'a toujours pas réagi. Est-ce que c'est normal, d'après vous?
Bon, je tiens à faire, M. Rassette, un commentaire très important.
Oui.
Les citoyens qui s'adressent à nous le font avec la certitude qu'on va garantir la confidentialité du traitement de leur dossier. Et nous,
oui.
jamais, on ne rend public les situations. Dans le cas du citoyen dont vous parlez...
Oui, c'est lui-même qui l'a déclaré.
Bon,
voilà.
Rendu public. Ce
oui.
que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on a pu obtenir plus d'heures pour M. Pigeon. Il y a encore des pourparlers avec l'instance, mais sa situation qui est particulièrement exceptionnelle, et il faut reconnaître que c'est une personne qui fait tout en son possible pour demeurer très actif. Il
oui.
a un lourd handicap et il occupe un emploi à plein temps avec des besoins spéciaux. Donc,
mais il y a de plus en plus de gens comme ça aussi, parce que l'inclusion scolaire a quand même fait son œuvre.
Et
il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, puis le soutien à domicile, c'est intimement relié à leur participation sociale.
Absolument, et c'est un des objectifs. Et M. Pigeon est un citoyen qui contribue aussi par ses impôts et les taxes qu'il paie à financer les services publics. Donc, je peux vous dire que le dossier a évolué positivement. Il y a encore des pourparlers sur certaines dimensions, mais il y a des gains qui ont pu être faits justement sur la base d'une situation qui est adaptée aux besoins de M. Pigeon. Et ça, c'est un des messages que je veux livrer. Il faut s'assurer, les services publics sont généralement très efficaces quand il s'agit de traiter à grande échelle des citoyens qui entrent dans la norme. Pensons à la SAC, l'émission des permis de conduire, ouais. L'état civil, bon, tout ça, ça va bien. Le citoyen, il entre dans ce qui
dans
convient
à
l'administration,
cases.
Dans les bonnes cases.
Mais brièvement, votre message final?
Mon message final, c'est qu'il faut adapter le service davantage aux besoins des personnes qui s'écartent de la norme, qui n'entrent pas dans la case de l'administration. Mmh. Et je pense qu'il y a une bonne volonté, mais il y a encore des efforts importants à faire dans ce sens-là.
Écoutez, brièvement, encore une fois, avant de vous quitter, vous êtes indispensable pour les médias, les groupes de défense de droits qui ont souvent utilisé vos rapports, les citoyens et les citoyennes. C'est votre dernier mandat. Est-ce que vous avez une idée où vous irez après? Parce que vous savez qu'on a bien hâte de vous retrouver.
Je ne le sais pas. Écoutez, je suis encore à plein temps protectrice et je le serai jusqu'à la dernière heure, j'en assure les citoyens. Après, ce que j'espère, c'est travailler vraiment encore au niveau de la démocratie, de l'intérêt public. Alors, je verrai, mais pour l'instant, je suis en mode protectrice du citoyen.
Et très bien d'ailleurs. Madame Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir, Monsieur Rassette. Au revoir.
Au revoir.